Bonsoir à tous, bonsoir les auditrices, bonsoir les auditeurs. Enchanté de vous retrouver ce soir. Nouvellement arrivé pour remplacer notre capitaine en chef Bilal Nedman qui n'est pas là ce soir pour des petites raisons particulières. Mais enchanté de vous recevoir avec nos chroniqueurs. Autour de la table, Christian Telfouche. Comment vas-tu, Christian?
Ça va super et toi?
Très bien.
Écoute, très heureux d'être là avec un super programme à la clé là.
Et t'as des petites anecdotes à nous raconter sur le petit match que t'as vu hier soir?
Exactement, ouais. J'étais à Charletti hier pour Paris FC Lorient, bon, qui a eu une issue malheureuse pour les Parisiens, mais un très beau match. Et ouais, c'était vraiment un très beau match de football, assure, on va en reparler.
Eh ben écoute, tu vas nous en reparler. À côté de lui, notre coach Tolé. Claude, comment vas-tu?
Ça va, impeccable.
Impeccable.
Et puis ravi d'être là pour ta... C'est ta première, non?
Oui, c'est ma première. Ouais, oui, mais on est en famille, donc il n'y a aucune appréhension.
Il n'y a pas de souci.
Comment vas-tu?
Impeccable, écoute, on est bien, il fait beau, ça bouge un peu à Marseille, on va y revenir, donc c'est cool.
Parfait. Et à côté, Jouba Washen. Comment vas-tu, Jouba?
Salut, Mamad, ça va très bien. Félicitations pour ta première.
Oh. Comment vas-tu?
On a un beau programme, ça, donc ça va très bien.
Ouais, je sais.
Si on parle pas de Lyon, on a un bel invité. Donc.
Mais on t'a fait quand même un programme aux petits oignons, je le sais. Salut!
Salut
Djouf, avec nous ce soir.
Comment ça va? Bah, aux petits oignons, aux oignons frits, toujours.
Toujours.
C'est important de le préciser, mais non, tout va bien. Et toi, comment ça va?
Ça va très bien.
En forme?
Ça va.
Au taquet?
Au taquet.
Parfait.
Comme d'habitude. Et Hugo va nous lancer le ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Oui, le ras-le-bol ce soir, le ras-le-bol avec cette Heinze, Puel, Villas-Boas, Benitez. Les dirigeants de l'OM réfléchissent au choix du nouvel entraîneur, mais des questions subsistent toujours sur l'organigramme à venir. Donc je vais interroger mes chers consultants, à savoir effectivement qu'est-ce qu'ils pensent un petit peu de tous ces noms balancés sur l'OM et est-ce qu'on a la personne idoine. Et je vais commencer par notre ami Claude Tollet, un grand fan de l'OM. Claude,
un grand fan
tous ces noms-là.
Un grand fan du football.
Du football, je sais.
Non, bah écoute, après, il faut savoir que tu étais dans une période assez classique, hein, t'es fin mai, donc tu te retrouves avec une dizaine de noms, le marché des transferts n'est pas encore ouvert, alors bien sûr... On l'a entendu cet après-midi officiellement, donc Rudy Garcia quitte bien le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais on le savait aussi depuis...
J'ai oublié de le souligner, Claude, effectivement, la nouvelle de la journée, c'est que Rudy Garcia quittait le navire. Bon, on s'y attendait un petit peu.
On s'y attendait un petit peu,
mais c'est officiel.
Il avait annoncé aux joueurs, on sait que Zubizarreta a été confirmé aussi, ça c'est une info importante en tant que directeur sportif.
On a fait un choix donc à l'OM, on a décidé de débarquer Rudy Garcia et de conserver Zubizarreta.
Rudy Garcia qui avait des pouvoirs assez important, assez élargi, donc on imagine quand même que si Zubizarreta est resté, c'est que il a dû avoir des garanties, et on risque de se retrouver avec Zubizarreta avec un pouvoir un peu plus important, donc pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il était pour moi il était critiqué injustement, alors que bon, c'est pas trop ce qu'il a encore mis en place, à part mettre en place notamment le centre de formation de Marseille, etc.
Ouais.
Maintenant avec les noms qui défilent, bon bah écoute, on attend de voir, on sait que visiblement
c'est quand même une belle palette, hein. Heinze,
oui,
bah, Puel, Villas-Boas, Benitez, c'est quand même le haut du panier.
T'as un peu tout, t'as Heinze qui est en train de faire ses preuves en Argentine, mais voilà, il débute. Après, on connaît le joueur qui était, donc il peut coller au contexte marseillais. Mais bon, là, on parle de l'entraîneur.
Exactement.
Puel l'expérience. Villas-Boas, depuis Porto, bon, moi, je me pose des questions. Benitez, je pense qu'il va rester du côté de la Première Ligue où il y a un gros chéquier qui l'attend.
Mais je vais donner la parole à notre ami Tristan pour lui demander justement, est-ce que ce n'est pas une forme de mea culpa des dirigeants olympiens que d'avoir effectivement tranché? Ils auraient pu débarquer les deux, ils en ont pris un. Ils l'ont fait partir pour garder quand même le second qui était dans l'ombre. Bah, Tristan.
Ils payent aussi leurs erreurs passées d'avoir prolongé Garcia à un moment.
Mais c'est quand même une forme de mea culpa, c'est qu'ils l'ont reconnu. C'est oui, une manière de le reconnaître sans le dire.
Effectivement, ils se sont rendus compte qu'au fil de la saison, Garcia est vraiment devenu le problème numéro 1 de l'OM, à savoir que les joueurs ne le suivaient plus, sur le terrain ça n'allait pas. Donc,
et pourtant, il avait été confirmé, voire même prolongé. Donc,
c'était une erreur. Parce que son contrat, il allait jusqu'en 2021, je crois, et ça servait à rien de le prolonger à ce moment-là. Ça avait strictement aucun sens. Il fallait attendre qu'il y ait des résultats pour savoir ça. Ensuite, il y a eu des très mauvais résultats, des éliminations en coupe contre Strasbourg, contre Andrézieux, etc. Et sans parler de la Coupe d'Europe et du championnat. Donc, Garcia était le problème numéro un, et on était un peu obligé aujourd'hui, côté Marseille, de s'en séparer. Mais ça va être... Très important de suivre ce qui va se passer, justement, parce que là, le chantier est quand même très, très important pour le successeur, quel qu'il soit.
Et justement, en parlant de chantier, Jouba, Wushen, nos deux consultants sont revenus sur ce futur choix, puisqu'il y a apparemment quatre choix aujourd'hui possibles, mais... Une chose est de choisir un entraîneur, mais quid de l'organigramme? Parce qu'on sait quand même que Garcia est arrivé avec un organigramme en place, qui allait même jusqu'au centre de formation. Donc ça va impliquer quoi, ce changement?
Alors, moi, je pense que justement à l'OM, c'est le moment de changer tout cet organigramme. On a gardé Zubizarreta, c'est à lui de construire du coup maintenant le club qu'il veut voir évoluer. Et Garcia doit partir avec tous ses adjoints, avec tout.
Donc pour toi, il faut qu'il reprenne sa valise et puis tous les gens qui...
L'OM doit se reconstruire à 100%. C'est pas normal qu'un club comme ça, avec la ferveur qu'il y a derrière, tombe aussi bas. Et ça fait quand même quelques années, même s'il y a eu quelques résultats, mais qui étaient un peu en trompe-l'œil. Ce club mérite mieux que ça. Et je pense qu'il faut tout revoir. Et je pense que ça va être très compliqué. Qu'importe l'entraîneur qui va arriver derrière, il y a une reconstruction totale à faire, et je vois pas comment tu peux reconstruire avec des joueurs comme Mandanda, comme Thauvin, qui veulent rester au club absolument, avec des salaires incroyables, et avec un club qui va devoir vendre aussi, parce que sans l'argent que rapporte la Ligue des Champions, va falloir séparer des joueurs, et il n'y a pas tant de joueurs que ça qui valent...
Avec une grosse valeur marchande, il n'y a que Thauvin quasiment. Qui a une grosse valeur marchande.
Oui, Thauvin, effectivement.
Sanson aussi qui peut...
Il faudrait plutôt le garder, Sanson, je pense.
Je pense que là, tu n'as plus le choix à Marseille.
Donc pour toi, même Sanson aussi, il faut le faire partir.
Sans Coupe d'Europe, il faut faire partir les joueurs qui valent de l'argent.
Les gros salaires aussi, si tu regardes la grille des salaires de l'OM, tous les joueurs qui ont les plus gros salaires ont fait la plus mauvaise saison quasiment.
Et quel club va vouloir
Mandanda,
reprendre un
Mandanda, Rami, Strootman, les plus gros, Payet bien sûr. C'est là que ça va être.
Je vois notre consultant Saliou Diouf qui est dubitatif, mais qui trépigne au fond de lui. Je le sens. Saliou, justement, Jouba parlait tout de suite de ferveur des supporters. La ferveur, on connaît la ferveur marseillaise plutôt. Les supporters marseillais souhaitaient l'éviction de toute la direction olympienne. Est-ce qu'un simple changement d'entraîneur pourra permettre à l'OM de se reconstruire? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton avis?
Déjà, c'est une rustine, déjà, le changement d'entraîneur.
Pour toi, c'est une rustine.
Ouais, c'est une rustine. Parce que ce qu'ils veulent, les supporters de l'OM, c'est la tête de Jacques-Henri Hérault, tout simplement. Mais je pense pas que ça se fera maintenant.
Je vois mal Jacques-Henri Hérault se saborder lui-même.
Parce que McCourt. Non, mais de toute façon, c'est McCourt qui les prend, les décisions. Et donc, la décision de.
Normal, c'est le président.
Non, c'est le.
L'actionnaire.
L'actionnaire, pardon.
Voilà, c'est différent. Donc, sachant que là, c'est Jacques-Henri Hérault qui a pris la décision de se séparer de Rudy Garcia avec une pression, certes. Donc, je pense que McCourt attend le gros couac, mais l'énorme couac qui peut se passer la saison prochaine, voire un peu plus tard, pour évincer Hérault, pour vraiment partir sur de nouvelles bases. Et de ce point-là, en fait, il faut partir sur un entraîneur qui partira sur du long terme, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, tu joues rien du tout. Tu joues, à la limite, tu joues la Coupe
c'est
de
vrai.
La Ligue.
Élimination de...
un trophée, c'est déjà pas mal. À Marseille, il serait content d'avoir la Coupe de la Ligue, mine de rien, la saison prochaine.
National, non,
et puis voilà, tu reconstruis une équipe, tu construis une philosophie de jeu. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi pas exactement tenter sur un coach qui vient avec d'autres idées, une autre mentalité, mais qui connaît aussi justement la mentalité marseillaise, comme Gabriel Heinze, justement, qui s'inscrit dans cet ADN-là. Regarder sur du long terme, 2 ans, 3 ans, et pouvoir inscrire une philosophie de jeu. Et le dernier qui avait fait ça, je poursuis, c'est Bielsa, qui était resté sur cette philosophie de jeu.
Mais qui est parti très vite.
Ouais, mais il s'est fait trahir, entre guillemets, je sors les guillemets, parce que c'est les propos de Bielsa, par Labrune, qui n'a pas justement respecté ce qu'il voulait, et donc a pris sa démission. Mais justement, il s'inscrivait sur cette vision à long terme, avec une philosophie de jeu. Et je pense que les supporters marseillais, c'est ce qu'ils veulent maintenant.
Mais au-delà de ça, quand même, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on est à Marseille, dans un contexte particulier, où on est dans l'immédiateté. Marseille plus qu'ailleurs. Mais on là, est dans, tout, dans tous les clubs. Mais alors, comment faire justement pour joindre les deux bouts, en sachant que les supporters, compte tenu des dernières saisons qu'ils ont vécues avec beaucoup de déceptions, là, vous me parlez de long terme. Mais comment conjuguer le long terme avec cette volonté d'avoir des résultats immédiatement, Claude?
Moi, je comprends tout à fait Saliou. Le long terme à Marseille, ça n'existe
c'est
pas.
Compliqué.
Hein. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas de souvenir, malheureusement, d'avoir. D'avoir eu un projet à long terme, mais c'est vrai que Marseille, ça demande.
C'est pas forcément sur la période actuelle, c'est de tout temps.
Oui, c'est. Tu as eu la période Pape Diouf. qui est pour moi le meilleur président depuis les années Tapie, qui lui est resté 5 années, et là on a vu une évolution qui a amené au titre de champion avec Deschamps en 2010. Et encore, tu as eu Guérès, tu as eu Albert Raymond, etc. Maintenant, même si tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année, il faut impérativement que Marseille retrouve l'Europe l'année prochaine. Et là, l'équation va être délicate, parce qu'on parlait de séparer de certains joueurs, mais en même temps, ce sont les joueurs qui font quand même la différence. Enfin, Thauvin, on dit que c'est le joueur qui est le plus bankable de l'effectif, mais c'est lui qui fait la différence. Le reste est endormi. Sanson aussi, pour moi, c'est un joueur qui est pour moi mal utilisé.
Oui, je veux juste revenir sur les propos de Soussou Jouba, qui voudrait faire carrément de Jouba Ocean, qui voudrait faire un nettoyage de la cave au grenier, mais c'est quand même
ça
compliqué.
C'est quand même compliqué.
Maintenant, là, tu te retrouves dans un cercle vicieux.
Et qu'est-ce que tu fais de la contrainte financière? Parce que c'est bien beau peut-être que de vouloir tout nettoyer, ça peut se comprendre, des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction, mais il faut pouvoir encore racheter. Et quand tu rachètes, ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir racheter.
Va falloir racheter intelligent, et c'est là que c'est compliqué. Et à Marseille, justement, on parle de résultats tout de suite, sauf que quand tu as des joueurs, par exemple, comme Balotelli qui arrive et qui peut t'apporter une value supplémentaire, mais qui doit partir 6 mois après, et ben ça, par exemple, c'est une erreur. Et il ne doit pas pouvoir...
En fait, ce que je voulais te faire dire, c'est que la balance entre vouloir recommencer un nouveau projet et tout balayer d'un seul revers de la main, c'est quand même, il faut trouver un équilibre.
Je pense qu'il faudrait tout balayer, mais je pense que j'ai aussi dit que Mandanda, que Thauvin ne voulaient pas partir. Thauvin, il va être poussé vers la sortie, mais des joueurs comme Mandanda avec son salaire, aucun club ne peut payer le salaire de Mandanda et n'a envie de payer le salaire de Mandanda ou de Payet.
Mais à l'heure actuelle,
Tristan, Telfouche,
l'OM, ils sont quand même obligés d'entamer ce nouveau cycle. Moi, je suis plutôt d'accord avec Salut. Le fait que la saison prochaine, il n'y ait pas de Coupe d'Europe et qu'il y ait vraiment une très mauvaise saison cette année, avec les cadres qui avaient fait la grosse saison l'année dernière en allant en finale d'Europa League, qui ont tous été mauvais, ça montre qu'on arrive quand même à un tournant de l'ère McCourt à l'OM, qu'on a eu un premier cycle avec des hommes forts qui ont fait des bonnes choses sur une saison, mais qui n'ont ensuite pas confirmé. On voit bien que finalement les joueurs qui sont arrivés dans ce projet, c'était pas tous des bons choix, c'était des choix court terme. Et aujourd'hui, même si effectivement c'est impossible à l'OM de dire aux supporters, voilà, attendez, cette année c'est juste une année de transition, cette année on n'a pas d'objectif précis, on veut juste reconstruire, c'est pas ça non plus. C'est pour ça d'ailleurs que, pour en revenir sur le débat du coach, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui a une expérience et qui est déjà passé par des contextes au moins aussi exigeants que celui de Marseille. Parce que effectivement, si tu mets un entraîneur néophyte, même qui a du prestige, tu risques de faire comme une Henri à Monaco. Ou si tu mets un mec qui est pas prêt.
Claude, justement, j'allais te poser une question, tant que l'on voit tout vent dans les travées du stade Vélodrome.
Vélodrome d'Ivry-sur-Seine,
ouais, juste à côté, d'autre côté de la Seine.
Mais les Rami, etc., les joueurs vieux, Payet et tous les retours de Mandanda, etc., ça a pas fonctionné. Donc, faut bien aussi avoir une vision plus.
Payet, il vient de dire qu'il restait l'année prochaine à l'OM, donc tout comme Rami.
Oui, mais enfin, qu'il souhaitait rester. Alors, entre souhaiter et ce qui va se passer, c'est deux choses différentes.
S'il ne veut pas partir, il ne partira pas.
C'est possible. C'est possible. Justement, Claude, on parlait de ce cruel constat qui est fait sur la saison marseillaise. Donc, quel est le visage de l'Olympique quel sera le visage de l'Olympique de Marseille selon toi, dans sa globalité? À quoi pourra ressembler l'Olympique de Marseille l'année prochaine?
À quoi pourra ressembler? Tu peux partir du principe que, de toute façon, Mandanda restera numéro 1. Je pense
tu penses qu'il sera confirmé?
Bien sûr, il sera confirmé. Il sera confirmé maintenant. Après, faut surtout renouveler. Et on cherche un profil visiblement de numéro 1 bis. Je pense que l'axe devrait rester. Mais tu sais, là, je te raconte ça. Mais en fin de compte, tant qu'on n'a pas l'entraîneur, on ne sait pas réellement quels seront les contours. Mais on peut partir du principe que Keita Tsar, que Bouba Camara, que.
Oui, parce qu'il y a quand même un peu de qualité quand même à l'Olympique de Marseille, bien sûr.
Les Sakai. Si Sanson part, vaut mieux garder Maxime Lopez, enfin ne pas faire partir les deux. T'auras quand même une base de joueurs extrêmement intéressante et importante, mais tout va se jouer surtout lorsque le coach sera nommé. Enfin là, on en saura beaucoup plus sur les contours de cet OM 2019-2020. Là, c'est encore beaucoup trop tôt.
Tristan, tu as peut-être un dernier mot sur le second tour de l'Olympique de Marseille de saison 2019-2020.
Non, mais ça ajoute ce que j'ai dit. Voilà, t'as des jeunes joueurs talentueux à l'OM. C'est un effectif qui devrait pas être sixième aujourd'hui. C'est un effectif qui aurait dû être top 4, allez, pour faire large. Voilà. Mais il se trouve que pas mal de joueurs n'ont pas tenu leur rang. Et c'est pour ça que Rudy Garcia a dû, en janvier par exemple, donner beaucoup plus de temps de jeu au Maxime Lopez, au Caletas, installé Caletasar Camara en défense centrale. Ça c'est un motif d'espoir pour l'OM. Il faut construire là-dessus aujourd'hui. Et voilà, c'est quand tu me dis qu'un Mandanda il va rester premier, numéro 1, je sais que Mandanda, voilà, à l'OM c'est quelqu'un très particulier, mais ça reste une erreur malgré tout l'affect que tu peux avoir, ça reste une erreur.
Ah, c'est parce qu'ils sont d'affect, mais je pense que surtout c'est difficile de trouver là aujourd'hui un. T'avais le
je vais te donner la parole. Salut, ton avis sur l'OM de l'année prochaine, le visage de l'OM de l'année prochaine.
Je pense qu'il devrait changer de gardien déjà, tout simplement. Et puis ensuite partir sur un nouvel attaquant, puisque Balotelli ne prolongera pas.
Alors, on va reprendre ça, on en reparlera. On va se retrouver donc avec notre invité incroyable mais vrai, Georges Eddy, d'ici quelques secondes.
Time Sport revient dans un instant.
De retour sur l'antenne de Time Sport, votre émission spéciale sport avec un invité exceptionnel, monsieur Georges Eddy, un grand chroniqueur basket NBA. On va faire un petit saut dans le temps. Il est actuellement encore toujours chroniqueur. Il parle très bien de basket avec nos consultants. Salut Djouf, Jouba Houchen, Claude Tollé et Tristan Telfouche.
Time Sport.
Oui, comme je vous l'ai annoncé tout de suite, nous avons le grand honneur de recevoir ce soir monsieur Georges Eddy. Pour moi, c'est un peu une séquence nostalgie. Je l'ai connu avec les débuts de Canal+, et les débuts de la NBA. Il m'a fait découvrir la NBA. Et il est avec toi à l'antenne. Comment allez-vous, Georges ? Bonsoir.
Bonsoir, tout va très bien, merci.
C'est exceptionnel, je reconnais cet accent-là. C'est comme si j'étais devant ma télé en train de regarder un match de NBA. Je revois Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen. C'est vraiment un grand honneur, Georges, que vous nous faites d'être avec nous ce soir. Comment allez-vous?
C'est un honneur pour moi d'être invité, merci.
c'est très gentil, Georges. Georges, vous venez de sortir votre biographie, Mon histoire avec la NBA, aux éditions Talent Sport. C'est un peu un condensé de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes en France. Et d'ailleurs, vous êtes en France depuis combien de temps, Georges ?
Depuis 1977.
1977. Et si je me souviens bien, il me semble qu'à un moment donné, vous aviez une boutique qui s'appelait Quarterback, c'est bien ça ?
Non, ça s'appelait Magic Basket.
Magic Basket, j'ai tapé à côté, c'est pas grave.
La première boutique à vendre les produits NBA et NFL du sport américain.
Oui, et je sais que tous les aficionados du sport américain étaient très 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 férus de votre boutique et ça défilait un petit peu à l'époque.
Oui, disons qu'on avait la bonne idée avant tout le monde, mais après on a été largement dépassé par les grandes enseignes de sport. On était des amateurs dans ce milieu-là.
Bon, mais vous êtes quand même un précurseur pour beaucoup de choses, Georges. En fait, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. Et je vais revenir sur votre bouquin, donc Mon histoire avec la NBA aux éditions Talent Sport. Et vous pouvez nous donner, enfin, pas les meilleures feuilles, mais nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bouquin?
En fait, c'est un peu ma vie à travers mes expériences avec la NBA. D'abord aux États-Unis comme simple fan, ensuite joueur. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de joueurs NBA à travers mes amis. Et parce que je suis devenu basketteur professionnel à partir de l'âge de 20 ans en France.
D'accord.
Donc, après 15 ans de basket pro, j'ai devenu commentateur à Canal+. Et j'ai la chance de faire découvrir le monde de la NBA à notre pays. Et donc, ça fait 34 ans que je fais ça. Et évidemment, j'ai rencontré beaucoup de grands champions, des grands coachs, toutes les grandes figures du basket mondial. Et j'essaie de transmettre un peu toutes ces expériences dans ce livre.
Mais écoutez, ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai reconnu, vous avez dit, notre pays, c'est que vous vous sentez quand même totalement français. Enfin, totalement, vous êtes quand même vous êtes ricain, mais vous vous sentez français. Vous avez dit notre pays.
Oui, en fait, je suis français de naissance par ma mère.
D'accord.
Qui est née dans les Yvelines à Chatou. Donc, j'ai toujours été franco-américain et j'ai toujours essayé de réunir le meilleur des deux cultures.
En tout cas, vous le faites très bien, hein, parce que vous êtes un formidable conteur, si je peux m'exprimer ainsi. D'ailleurs, je vais passer la parole à notre consultant, Salut Djouf, qui a une question à vous poser, Georges.
Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
C'est simple, ça fait quelques années que la NBA n'est plus diffusée sur Canal+. Est-ce que ça vous manque aujourd'hui de commenter pour les Français justement la NBA? Parce que vous étiez ancré dans ce paysage-là en fait. Parce que quand on disait NBA en France, il y a Georges Eddy qui allait avec.
Oui, bah maintenant, c'est la NBA en Afrique avec Jules Gély. Donc avant, je commentais pour un pays, et maintenant, c'est pour le continent.
Mais justement, sur le fait que ce soit justement vous qui étiez principalement en commentaire, c'est ça ? C'est aujourd'hui, c'est la chaîne concurrente qui l'a. Vous vous êtes pas dit, j'aimerais bien justement rejoindre cette chaîne concurrente pour continuer à commenter ces main events.
Bah, ils me l'ont proposé, mais il faut dire que j'avais beaucoup d'ancienneté à Canal Plus et donc une situation très privilégiée. Et bien sûr, on n'était pas prêt à s'aligner sur mon salaire de Canal Plus. Canal voulait me garder justement pour développer la popularité de la NBA en Afrique, où nous avons 3 millions d'abonnés en 25 pays francophones africains.
Pas mal.
Donc, c'était un beau projet. Je continue à commenter les équipes de France, hommes et femmes, sur Canal Plus en France. Nous avons le contrat pour toutes les plus grandes compétitions, comme la Coupe du Monde cet été, qui va être fantastique. Et donc, je commente aussi la Coupe d'Europe sur Canal, le basket Champions. Donc en fait, je suis très content de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et je ne suis pas du tout nostalgique de ce que j'ai fait il y a 15 ou 20 ans.
Et justement, en parlant de nostalgie, on se souvient aussi d'une période où vous étiez un petit peu en froid, enfin pas en froid, ou de cette confrontation, de ce clash avec Tony Parker. Aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce qu'on en retient de cette histoire-là?
Bah, on était un peu en froid pendant 2 ans. Et après, on s'est retrouvé, on s'est rabibouché, on est redevenu très amis. Et j'ai beaucoup de respect pour Tony, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière de joueur et tout ce qu'il est en train de faire en tant que dirigeant de l'ASVEL avec Nicolas Batum. Il est de redonner au basket français le double de ce que le basket français lui a apporté. Il est très reconnaissant, il aime la France. Il va s'installer dans ce pays au moins à moitié de son temps. Et c'est formidable. Et on voit que Boris Diaw va devenir aussi le président de Levallois à Bologne. On a Yann Naïmi qui est actionnaire à Rouen.
Oui, c'est ça.
Et toute cette génération de Parker redonne beaucoup au basket français et je trouve ça formidable.
Bah, de toute façon, je crois aussi que Tony Parker a beaucoup de respect pour vous, Georges. Ça, j'en suis sûr et certain. On va laisser la parole à Juba Houchen, qui est un grand fan de NBA, qui passe ses heures, il descend jusqu'à des 4 heures du matin, des 5 heures du matin pour suivre les playoffs. Il va vous poser une petite question, Georges.
Bonsoir, Georges Eddy.
Bonsoir.
Alors, moi, c'est un plaisir de parler avec vous, même si c'était pas spécialement mon époque, mais c'est toujours un plaisir d'entendre cette voix. Je pense que... De nos jours, maintenant la NBA a eu un tournant. Il y a le tir à 3 points qui a été révolutionné par les Warriors, par Stephen Curry spécialement. Et vous qui étiez un grand shooter à l'époque, est-ce que qu'est-ce que vous pensez justement de ce changement de tactique en NBA?
Bah, je trouve que quand c'est bien fait, c'est très spectaculaire. Quand c'est les Warriors de Golden State qui utilise à l'outrance le shoot à 3 points. Ça produit du beau jeu, ça produit des victoires et des titres. Mais bon, d'autres équipes qui essaient de copier cette formule, qui sont peut-être moins performantes, moins adroits, quelquefois on peut voir des matchs un peu caricaturales avec beaucoup trop de shoots ratés à 3 points. Donc c'est toujours pareil. C'est une évolution. Le panier à 3 points vaut 50% plus cher que le panier à 2 points. Donc, tous les coachs ont compris qu'il fallait donner priorité au shoot à 3 points. Quand c'est fait dans un beau collectif avec des joueurs de très haut niveau comme Curry, Clay Thompson et Kevin Durant, je trouve que ça peut produire le plus beau jeu de tous les temps. Mais quand c'est James Harden qui dribble 25 fois pendant que ses coéquipiers sont statiques, là, je suis moins fan de ce jeu-là.
D'accord. Et justement, vous avez passé les époques, vous suivez la NBA depuis si longtemps. Quel joueur vous a marqué et vraiment vous justement, quel joueur est le meilleur d'après vous?
Bah, disons que moi, j'ai commencé à regarder la NBA dans les années 60. Donc, j'ai eu la chance de voir le fameux duel entre Bill Russell et Will Chamberlain. après les années 70, c'était Julius Erving qui nous a réinventé le basket dans les airs. Après, on a le duel Magic contre Bird dans les années 80 qui redonne des couleurs à la NBA qui était en manque de popularité. Les années 90, c'est les années Jordan. C'était probablement la plus belle époque parce que il a réussi à internationaliser la NBA avec la Dream Team. Et puis bon, à partir des années 2000, c'est Tony Parker, la génération avec Maurice Gall, Kobe Bryant, LeBron James, et maintenant c'est Stephen Curry, James Harden, et Antetokounmpo.
Vous êtes une vraie bibliothèque, Georges.
C'est une rockstar à découvrir, c'est une évolution permanente. Je trouve que le grand patron de la NBA gère très très bien son business, il s'appelle Adam Silver. La numérisation, l'internationalisation de la NBA. Je raconte tout ça dans mon livre.
Eh ben.
C'est une évolution permanente et je trouve que ça donne un très beau produit aujourd'hui.
Bah écoutez, Georges, on va se faire un plaisir de se procurer ce livre, de le lire et d'aller vraiment en profondeur. On est vraiment, vraiment, vraiment très, très content de vous avoir reçu. Bah, peut-être une dernière question. Votre pronostic sur le vainqueur de ce championnat nord-américain?
Bah moi, avant les playoffs, j'ai choisi Milwaukee. C'était un pari risqué parce que c'est une équipe qui manque d'expérience en playoffs. Mais ils ont dominé la saison régulière. Ils ont un nouveau coach qui a apporté un jeu formidable, notamment à 3 points. Antetokounmpo, c'est le MVP, le meilleur joueur de la saison. Donc je pense que Milwaukee pourrait éventuellement battre Golden State, mais c'est clair que Golden State reste les favoris parce qu'ils vont faire leur cinquième finale de suite et ils ont gagné 3 titres en 4 ans. Mais bon, si Milwaukee bat à Golden State, ça va donner autant plus de brillance à leur victoire.
Et en tout cas, Georges, on est vraiment très content de ce moment que vous nous avez accordé. C'est vraiment un très, très grand honneur. Je le répète encore une fois. Le bouquin, c'est Mon histoire avec la NBA aux éditions Talents Sport. Et puis n'hésitez pas, vous venez quand vous voulez. La porte est toujours ouverte, Georges.
Merci beaucoup, vous êtes très aimable.
Mais écoutez, c'est très gentil, à très très bientôt.
Au revoir Georges.
Au revoir et merci encore.
Merci à vous.
Et voilà, donc on se retrouve dans quelques instants avec nos consultants Christian Tedfouche, Claude Tollet, Juba Houchen et Salut Djouf. À tout de suite sur l'antenne de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant.
De retour sur Time Sport avec la victoire, un petit tour en Première Ligue.
Time Sport, la victoire.
La victoire, effectivement, la victoire de Frank Lampard, de l'évidence Frank Lampard dans le viseur de Chelsea pour succéder à Mauro Sarri. Claude Tollet. C'est très très difficile, mémotechniquement, de pouvoir l'énoncer de cette manière-là. Mais faut pouvoir donner à tes élèves.
Ils ont du mal, les petits. Je dis Claude, ils ont du mal. Il est dédicat.
Je suis pas seul, ça me rassure.
Claude, Lampard à Chelsea, pas surprenant.
Frank Lampard, un joueur emblématique de Chelsea.
Bien sûr, qui a marqué l'histoire, qui a marqué Chelsea des dernières années avec la finale en Ligue des Champions en 2012. Et puis le Lampard entraîneur, c'est Frankie Lampard qui a battu le Leeds de Marcelo Bielsa et donc qui se dirige tout droit vers la Première Ligue, donc qui a fait un gros championnat, qui a un style de jeu basé sur à l'image du joueur, beaucoup de rigueur et puis beaucoup de confiance auprès de ses joueurs, avec un jeu plutôt intéressant pour la Championship. Maintenant, après, bah, le voir sur la shortlist de Chelsea, c'est pas surprenant. Mais bon, Lampard débute aussi dans le métier, donc alors peut-être qu'il a tout pour être un très grand entraîneur à l'avenir.
Tu penses qu'il est armé pour Claude pour frotter aux équipes de Première Ligue?
Bah, tu sais, si Chelsea se présente pour essayer de le récupérer, je sais pas ce qu'il va répondre, mais c'est vrai que tu as envie de te dire qu'il montera plutôt avec le club.
Derby County.
Voilà, exactement. Je vois peut-être plus, moi, continuer et faire ses preuves avec continuer à faire ses preuves avec Derby. Et après voir à l'avenir, mais bon, après
Juba, pour finir sur l'arrivée de Lampard, peut-être ton avis, toi, un avis éclairé sur la possibilité de le voir éclore.
Moi, j'y crois pas du tout, avec surtout cette saison, parce que Sarri, au final, on l'a critiqué sur sa saison, mais Il est troisième de Première Ligue derrière les deux monstres que sont Liverpool et Manchester City. Il est en finale de l'Europa League contre Arsenal, donc il a beaucoup de chance quand même de gagner cette compétition. Je vois pas pourquoi on virerait Sarri. Il a eu un problème à un moment avec son gardien Kepa. Ça a été réglé et je pense qu'il a la main sur son groupe. Je pense qu'il n'y a aucune raison de le voir partir. Lampard va jouer contre John Terry. Le petit clin d'œil, il va être amusant.
Ça va être beau à voir, ça.
Voilà. Mais oui, il faut le laisser continuer. On ne va pas virer Sarri pour une année de Lampard.
J'ai Salio Diouf qui trépigne à côté pour donner son avis sur l'arrivée de...
Ce que dit Juba, il ne faut pas oublier un détail, il peut soulever l'Europa League. Et ça, c'est un détail non négligeable.
C'est possible. Bah écoutez, on en a fini avec la Première Ligue. On va revenir de ce côté-ci de la Manche. On va lancer le duel.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Donc le duel, le fameux duel avec ces fameux barrages Ligue 1, Ligue 2 qui ont vu hier le Racing Club de Lens terrasser, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas évincer le Paris FC et qui va rencontrer 3. On avait un consultant qui était sur place dans les travées du club.
Exactement, ouais, j'y étais. Bah écoute, c'était vraiment...
Du PFC,
ouais.
T'as pas eu aller très très, très, très loin, Tristan.
C'est-à-dire ?
Pour aller au PFC.
Non, ça va, ça va, c'est dans la ville, tout va bien, c'est vrai.
Donc,
qu'on est à Paris.
Qu'as-tu vu hier le match était assez chaud quand même,
le
Tristan.
Le match était très chaud, ouais. Deux équipes qui dans le fond se ressemblent, hein, je trouve, et qui se valent aussi, peut-être un petit plus pour Lens, enfin ils n'ont pas volé leur qualification, clairement.
Parce que si tu nous redonnes le fil du match, on a été jusqu'au tir au but. Hein.
Alors pour le fil du match, ouais, rapidement, alors les Lensois ont ouvert le score sur leur premier contre en fait en première mi-temps. Par la suite, les Parisiens ont eu le pied sur le ballon pendant à peu près toute la première mi-temps, mais sans vraiment se créer d'occasion. Ça manquait un peu de précision, de justesse devant. C'est pour ça aussi que je pense que c'est déjà très bien pour Paris FC d'avoir réussi à aller jusque-là, de faire un match comme ça devant un grand public qui ne sont pas
oui, mais j'ai autant de monde. J'ai vu certaines images. Apparemment, il y avait la queue aux abords du stade du PSG.
Ouais, il y avait pas mal.
Beaucoup d'engouement.
Énormément de Lensois aussi qui ont prouvé d'ailleurs que c'est un peuple magnifique du football français, hein, qui mériterait d'être dans l'élite. Donc voilà, on verra pour leur déplacement à 3. Mais bon, du coup, pour le fil du match, les Parisiens ont dominé, mais parce qu'ils couraient au score et que les Lensois, voilà, ne voulaient simplement s'en contenter. Derrière, il y a eu ce but avec une petite polémique arbitrale, bon, qui a été validée. C'est vrai que Maletic, d'ailleurs, qui marque ce but, a fait beaucoup de bien aux Parisiens par son gabarit, par sa qualité technique. Il a fait beaucoup de bien. Derrière, les Lensois ont réussi à reprendre le contrôle un peu en prolongation, et puis ça s'est joué au tir au but sur un coup du sort, hein, puisque Perrault, donc le latéral gauche du Paris FC, qui faisait un excellent match, qui fait une excellente saison, qui avait tapé la barre pendant le match sur un coup franc et qui match tape chance. Le poteau sur le pénalty, ah. Qui coûte la qualification au Paris FC pour le prochain play-off, donc qui va se disputer à 3.
D'accord.
Donc voilà, très mérité pour Lens. Et puis Paris FC, des petits regrets, mais dans le fond, c'est pas plus mal pour eux. Ils sont en progression. L'année dernière, ils étaient déjà dans le haut de tableau. Là, ils ont fait quatrième. C'est très bien pour eux. Il faut que ça continue comme ça.
Alors, le PFC est en sortie. D'ailleurs, je vais donner la parole à Claude, parce que Claude aussi est un francilien notoire avec son équipe de Viroflay, les filles de Viroflay. Claude, on a vu effectivement qu'ils ont été poussés au tir au but donc par un PFC bagarreur et volontaire. Lens a validé mardi soir la première étape de sa course vers la Ligue 1. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on a vu assez de choses qui peuvent nous faire penser que Lens est en capacité, face à 3, d'accéder à l'échelon supérieur ?
3, c'est très compliqué. C'est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur, hein, qui est programmée depuis une dizaine d'années dans notre championnat hexagonal de faire Ligue 1, Ligue 2. Donc ils sont habitués à ça. Et par contre, Lens, ça c'est une chance inouïe. Ils avaient fait un très bon début de championnat et par la suite ils ont été irréguliers. Ils ont mieux terminé le championnat et se retrouvent donc à ses places pour accéder à la Ligue 1. Donc je pense qu'ils lâcheront pas, parce que c'est quand même une aubaine pour eux, au vu de leur saison. Donc ça va jouer pas grand chose.
Donc d'accord. Et encore un écueil encore pour un club francilien. C'est dommage. On parle toujours du second club.
Ça va arriver. Le PFC est un club neuf en reconstruction avec un centre de formation qui vient de voir le jour à Orly. Donc les soins choses autant, je pense que ça continue à grandir, ça va arriver pour le PFC.
Pour terminer sur ce duel donc, et les barrages sur la Ligue 1 Ligue 2, je vais poser une question à Joubao Chen. Est-ce que tu penses que c'est petit problème de cap. Est-ce que les Lensois ont la capacité mentale? On sait qu'ils ont un public, on sait qu'ils ont un stade, on sait qu'ils ont la capacité. C'est un club qui doit être en Ligue 1. Mais est-ce que les joueurs aujourd'hui ont cette capacité mentale pour aller chercher cette victoire et effectivement accéder à l'échelon supérieur?
Je pense que, comme on l'a dit autour de cette table, ça serait beau de voir quand même ce public Lensois en Ligue 1. Je pense qu'il le mérite. Mais en même temps, on a vu quand même les limites du jeu Lensois hier face à une équipe du Paris FC qui a couru après le score, mais qui a quand même dominé au final cette rencontre. Je pense que ça passera pas face. Peut-être que ça passera face à 3, mais ensuite, il faut aller jouer un club de Ligue 1 pour réussir à monter.
Et là, ça peut peut-être être un peu plus compliqué.
Ça peut coincer pour Lens, surtout.
Mais sur le plan mental, ils ont montré des ressources très intéressantes hier.
Bah écoutez, on verra si c'est suffisant pour aller se frotter à un pensionnat de Ligue 1 après avoir passé 3, si c'est le cas. Et on va accéder tout de suite au mode de pressing.
Time Sport, le mode pressing.
Le mode pressing avec cette liste de Didier Deschamps qui donc a intégré à cette liste Dubois, l'arrière latéral de l'OL, Mandanda et Mike Maignan, le gardien de Lille. Salut Diouf.
Mandanda, il n'y est plus. Hein.
Il n'y est plus. Ouais. Bah non, il a été sorti.
Justement, Mike Maignan.
Mike Maignan, c'est là. Quel lapsus. Même plus un lapsus. Ouais. Mandanda étant remplacé par Mike Maignan. Un peu de sang neuf dans cette équipe de France, alors qu'on a dit que Didier Deschamps est un tenant du conservatisme. Qu'est-ce que tu en penses, Salim?
En même temps, il n'a pas trop le choix. Sidy Bé, il était obligé de le remplacer par un joueur beaucoup plus performant cette saison, donc Léo Dubois. Kimpembe qui se fait opérer des adducteurs, donc ça ouvre la porte à notre ami l'anglais, et ça reste mérité. Et puis derrière, les gardiens, c'était forcément, ça aurait été scandaleux de garder Mandanda, même si il y a quelques mois dans cette émission, je disais qu'il fallait garder une stabilité dans les gardiens. Mais là, on est en fin de saison, il y a le bilan qui se fait, et je pense qu'il peut construire sur autre chose pour préparer l'Euro 2020. Mais le hic, bien sûr, il y a un hic, on est d'accord, comme tout le temps, c'est la casette. La casette, il a fait quoi?
Tu anticipes sur mes questions, Salou, c'est pas bien.
Non, mais je vais être très.
Respecte ton temps de parole et respecte les questions que je vais poser, s'il te plaît.
Je vais être très poli, mais parfois, je me demande même dans ma tête, est-ce que la casette n'aurait pas eu une relation avec la femme de.
Alors, je vais couper la parole à Salou Diouf, je vais lui couper la parole tout de suite et je vais passer de l'autre côté parce que là, il exagère, il outrepasse ses droits. Ses droits, plutôt, Salou.
Non, mais en se mettant un doigt dans le nez, en plus.
Bon, alors toi aussi, t'en rajoutes. Heureusement, j'ai eu peur quand tu m'as parlé de doigts, j'ai eu peur. Claude Tollet, Claude, justement, Salou étant effectivement en train de parler du cas la casette. Moi, j'allais en parler, effectivement, savoir encore une fois sur la touche avec ses performances. Il accède après un bon championnat, il accède à la finale de l'Europa League avec des performances qui sont plus qu'honorables. Pourquoi encore la casette laissée sur le banc de touche?
Parce que il fait ses choix, parce que t'as des joueurs de confiance, parce que t'en as d'autres qui sont performants, parce que. Après, je pense que c'est une question de.
Il y a des joueurs qui sont encore plus performants que lui.
C'est une question de. Bah, quand tu regardes. Oui.
C'est Ben Yedder qui a été appelé.
Ben Yedder
a été
appelé. C'est Ben Yedder qui a été appelé.
Le débat est ouvert, mais.
Ben Yedder, il a été efficace.
En finale de Ligue Europa, il est meilleur joueur.
Alors, c'est Juba Wachim qui prend la parole. Alors, l'avocat d'Alexandre Lacazette.
Ancien Lyonnais, je suis obligé. Mais non, plus sérieusement, c'est quand même. Il fait sa meilleure saison. Il a quand même. À côté de lui, Aubameyang, et il est nominé et il a été élu meilleur joueur d'Arsenal par les supporters. Il y a une raison, il est un incroyable buteur, il fait jouer son équipe et en même temps, il a les résultats parce qu'il est en finale de Ligue Europa, il a les moyens de qualifier son club pour la Champions League par ce billet et je trouve ça pas normal qu'il n'ait pas sa chance une nouvelle fois en équipe de France, surtout que la dernière fois qu'il était là, c'était un match contre l'Allemagne et qu'il a mis un doublé aux côtés de Martial.
Je vais revenir sur Tristan avec une autre question. En fait, ces fameuses rencontres face à des adversaires d'un faible niveau, est-ce qu'elles ne doivent pas permettre à Didier Deschamps de faire tourner son effectif rapidement, Tristan?
Si, carrément. Bah, c'est ce qu'il fait un petit peu. Hein. D'ailleurs, il le fait toujours. Donc, je pense qu'il va le faire. Mais bon, avec Didier Deschamps, il y a toujours cette logique d'appeler des joueurs à peu près... qui connaît, voilà. Après, on a toujours le débat sur Didier Deschamps, on n'est jamais d'accord avec ce qu'il fait, mais ouais, il a tellement de résultats que bon, j'attends de voir. Mais, bon.
Mais écoute, voilà. Merci Tristan pour ton avis. On va terminer là-dessus avec donc je vous rappelle avec nos consultants, Salut Diouf, Juba Wachim, Claude Tollet, yes. Et Tristan Telfouche. À demain, ouais. Sur les antennes de Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.